de santé 88.4.
Salut à tous et bienvenue pour un enjeu de santé sur le thème de l'addiction, et pas n'importe laquelle, puisque on va parler notamment de toxicomanie et de pharmacodépendance, puisque je suis allée rencontrer donc Monsieur Mazak Paul, qui est infirmier à l'Envol, un endroit où on peut avoir une prise en charge médico-sociale gratuite et anonyme pour les personnes donc addictes à certaines drogues. Nous allons donc parler évidemment de ce lieu, de l'accompagnement qu'il propose, et nous verrons les différents traitements liés à cette dépendance. J'ai donc rencontré Monsieur Mazak Paul, je vous laisse écouter. Alors, je suis à l'Envol afin de parler un petit peu des addictions et plus particulièrement de la toxicomanie. Tout d'abord, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que la toxicomanie.
Alors, on va définir la toxicomanie comme la consommation générale d'un produit généralement stupéfiant, donc produit et qui tombe sous le coup de la légalité. Nous, dans notre patientèle, dans les gens qu'on voit ici, donc on a une majorité de consommateurs d'opiacés, de fil d'héroïne, avec une consommation de ce type-là qui est unique, ou une consommation associée donc de médicaments, éventuellement, alcool, enfin divers produits psychotropes, quoi.
Et alors, quand ils viennent à l'Envol, quel accompagnement allez-vous faire? Est-ce que vous faites une évaluation? Comment ça se passe, le premier dialogue avec un patient?
Alors, le premier rendez-vous est toujours un rendez-vous d'évaluation par rapport à la situation, aux difficultés, à l'histoire, à la demande, aux souhaits. Ensuite, orientation, soit vers un traitement qui peut être de type substitution pour les opiacés, ou aide médicamenteuse si un souhait d'arrêt total, par exemple, de sevrage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait de moins en moins, mais ça existe quand même toujours, et ça se propose toujours. Possibilité d'orientation vers psycho, et suivi avec psychiatre si nécessité, ou médecin en tout cas, quoi. Et si mise en place du traitement, on peut organiser l'équilibrage, c'est-à-dire l'induction, le départ, le démarrage quoi, du traitement sur place, avec une délivrance pendant quelques temps, avec l'idée quand même à terme de renvoyer les gens vers leur vie, donc vers l'extérieur, vers leur médecin traitant s'il y a encore besoin de traitement, ou vers la diminution et l'arrêt à plus ou moins long terme, quoi, quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire d'ailleurs. Ce sont des traitements qui sont quand même en général d'assez long terme, quoi.
Est-ce qu'un toxicomane va avoir conscience qu'il est dans un mal-être ou justement dans une situation de dépendance, d'addiction?
Oui, oui. Consommation, avec les consommations stupéfiantes, quoi, les gens sont parfaitement conscients de ce qu'ils font de leur consommation, des quantités, de la qualité des produits, du mode d'utilisation. Par contre, là où il y a des décalages, c'est parfois plus dans la demande, quoi, où la demande est parfois un petit peu magique, quoi, en termes de soins ou en termes de résolution, quoi, des problèmes. En fait, c'est un cheminement, quoi, et peut-être il peut y avoir des décalages entre le souhait, la demande et les capacités réelles de la personne, quoi. Là, il peut y avoir quelques illusions. Mais par rapport à, contrairement quoi, à l'alcool, où souvent quelqu'un qui est dans une consommation très importante quoi, d'alcool, il y a souvent un déni qui accompagne aussi cette consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience quoi, du trouble, des troubles engendrés quoi, et de l'importance quoi, du mal exposé, quoi. Chez le toxicomane, on n'a pas du tout ce genre de choses, quoi. Toxicomane en général, ou alors il va être dans la négation quand il va être défoncé. Mais quelqu'un qui retrouve, enfin après la période, voilà, défonce, le lendemain par exemple, enfin, bon, après la durée de l'effet produit, on peut reprendre les choses et rediscuter d'une façon très lucide.
Est-ce que quelqu'un qui va avoir un usage festif des drogues va être directement considéré comme un toxicomane?
Non, il y a des grosses différences quoi, entre les consommations, les consommateurs, les produits consommés, le risque, les quantités consommées, et puis surtout la personne qui consomme quoi. Nous ici, on s'attache quand même beaucoup quoi, à se dégager un petit peu du produit. C'est-à-dire que pour travailler sur toxicomanie en général, il faut avoir une connaissance quand même des produits utilisés et des effets induits quoi, sur les gens. Mais en fait, on s'en dégage de façon à revenir surtout centrer le travail sur la personne, quoi, sur la personnalité, sur la personne elle-même, davantage que sur tout l'aspect produit, médicamenteux, machin, tout ça. Quoi. Où ça, c'est bon, on est un petit peu dans quelque chose d'un petit peu technique, qui n'est pas le centre du travail. Quoi. On met vraiment en avant la personne avec son histoire, ses difficultés, ses ressources, la capacité à mobiliser tout ça, la façon dont tout ça peut être dynamisé, enfin, dans le sens d'efficacité, enfin, entre guillemets, enfin, dans le sens en tout cas d'amélioration des choses.
Alors, quel genre de traitement il peut y avoir, puisque je suppose qu'il y a des conséquences médicales et sociales, en fait, des produits sur le toxicomane.
En termes de traitement, pour les opiacés, ce qui représente quand même la plus grande partie quoi, des gens qu'on voit passer ici. On a une réponse technique quoi, donc avec les traitements de substitution qui sont mis sur le marché, donc qui ont l'autorisation de mise sur le marché depuis 1995, donc buprénorphine ou méthadone. Donc ce sont des réponses un petit peu techniques, mais en termes de traitement, voilà, qui permettent rapidement quoi, d'obtenir un soulagement, de ne plus être dans la nécessité de consommer le produit de base, l'opiacé de base, donc de mettre de la distance avec les consommations et avec les inconvénients qui accompagnent ces consommations-là, quoi. À savoir principalement la nécessité donc, de répéter les prises, de passer beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur la recherche du produit pour se procurer de quoi aller mieux. C'est-à-dire que quand on voit les gens arriver quoi, avec des demandes de traitement, en fait, ils n'en sont plus quoi, à prendre des produits pour le bien-être ou parce que c'est bon, on en est juste à prendre du produit pour ne pas être mal, quoi. Donc le souhait, c'est quand même en général d'arrêter, quoi.
Est-ce que le traitement de substitution va convenir à tout le monde ?
Enfin, déjà, il faut faire le choix entre les deux. Les deux ne sont pas tout à fait les mêmes. Ensuite, quand on met en place un traitement, voilà, il ne répond pas nécessairement d'emblée comme ça à la résolution de tous les problèmes qui sont posés quoi, au départ, qu'on a pu des fois identifier, puis des fois qui apparaissent à la mise en place du traitement. C'est-à-dire quand on arrête le produit, souvent le produit peut lui-même avoir un effet un peu traitement, quoi, de manière sauvage, mais enfin, une consommation ne vient pas s'installer au hasard. Quoi. En général, ça sert quand même à quelque chose. Des fois, à l'arrêt du produit, on a des surprises, on voit des difficultés qui n'étaient pas pressenties ou qui n'étaient pas perçues jusque-là et qui apparaissent. Quoi. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, dans les pratiques, donc, il y a des pratiques différentes aussi. Le fait de mettre une substitution en place n'est pas forcément la réponse immédiatement efficace. Quoi. Auquel cas, on peut aussi avoir des détournements, voire du mésusage quoi, du produit. Quoi. C'est-à-dire un produit qu'on fait fondre sous la langue peut très bien être sniffé ou même injecté dans le pire des cas. Mais ça met en cause aussi la personnalité quoi, de la personne et donc des pratiques quand même à risque portantes, majeures. Donc bon, on voit bien à quel point les choses ne sont pas simples.
Est-ce que vous pourriez par exemple juste lister les différents traitements en fait, qui sont proposés ?
Ben, c'est selon, on essaie de répondre aussi à la demande de la personne. Et même principalement, parce qu'on ne travaille ici qu'avec des gens volontaires. Sauf, alors, bon, il faut quand même dire, bon, quand on prend des stupéfiants, tout de suite, on est sur des produits qui sont hors la loi. Donc, effectivement, on peut avoir mal à partir. Et c'est quand même assez fréquent, quoi, avec la justice, quoi. Ça peut être une substitution. Ça peut être, on peut être un traitement médicamenteux simple, pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Quoi. L'important, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas uniquement une réponse technique. Quoi. Donc, d'où l'importance d'avoir des psychos, l'importance d'assistance sociale si la situation sociale de la personne est très dégradée du fait de ses consommations ou son mode de vie dans les temps qui précèdent son arrivée ici. Quoi. Ce qu'on essaie de faire en termes de soutien quoi, et d'aide au niveau infirmier, par exemple, et puis de suivi sur l'institution elle-même, quoi, sur notre structure.
Vous disiez donc une personne dégradée dégrader. Est-ce que aussi la toxicomanie n'a pas justement des conséquences médicales sur la personne ?
Oui, ben, y a des conséquences évidemment hein, sur le physique, sur les rythmes et le mode de vie. Avec les opiacés, ben, on va très vite perdre l'appétit, avoir des problèmes dans les rythmes jour-nuit, avoir des soucis au niveau du sommeil. Donc, une grande fatigue qui accompagne tout ça. C'est pas l'opiacé directement donc qui est en jeu, c'est surtout ça des conséquences collatérales quoi. Des problèmes d'hygiène par exemple, si les consommations durent depuis longtemps. Mais là aussi c'est très très variable, hein. Tout dépend si on a affaire à quelqu'un qui vit à la rue, qui est dans des conditions déjà de vie extrêmement difficiles, ou si on a affaire à quelqu'un qui reste socialisé, qui réussit à sauver son boulot, qui réussit à qui a une famille, enfin bon, qui réussit à relativement rester adapté. Les choses ne se posent pas de la même façon. Mais globalement il y a des gènes. Oui, comme ça. Si c'est de la coque, bon, ça s'accompagne quoi, en général de sentiments de toute puissance. Et si l'usage est répété, effectivement, on aura très vite des soucis du point de vue de relationnel, du point de vue de ses rythmes, du point de vue du professionnel, éventuellement de la justice. Et par là, sur la santé. Ceci dit, là aussi, les répercussions sont différentes selon les uns et les autres. Il y a des différences majeures. C'est difficile de répondre quoi, d'une manière très, très marquée. Mais effectivement, à partir du moment où on prend quelque chose, et si on en abuse surtout, ça a une répercussion sur soi, aussi bien psychologique, enfin, éventuellement psychique, en tout cas, que physique.
Et on va faire une petite pause musicale avec un peu de jazz. À tout de suite. It's so easy here with you. Like a walk in the park just before dark. Oh, it's so easy here with you. Like sun on my face, a bright summer day. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. And summer slips to fall, yes it does. Seems no time's passed at all, no time at all. And summer slips to fall, and then it snows. Then I watch you go, oh. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. I got a feeling about you, might be nothing new. But time slips by, I hardly try. So don't be sad, I won't be blue. Love will follow, follow you. Taunting me. C'était donc la chanson Mélodie de Molly Johnson. Nous allons donc poursuivre avec Monsieur Mazak Paul qui nous parle justement des traitements et là qui approfondit un peu plus la chose. Et on va aussi s'étendre un peu plus dans cette partie sur la pharmacodépendance, les relations entre les différentes drogues, addictions. Et alors, dans le cas donc d'un traitement, est-ce que la rechute est comme obligatoire ou est-ce que c'est quelque chose qui parfois n'arrive jamais ?
Oui, sans doute, qui parfois n'arrive jamais. Oui, c'est pas le plus fréquent quand même. Hein, mais oui, il arrive que des gens démarrent un traitement, hein, substitution, et puis le gèrent suffisamment bien pour... pouvoir se détacher du produit consommé à la base et évoluer vers une autonomie tout à fait plus qu'acceptable, enfin, suffisante en tout cas pour se prendre en charge et continuer à travailler sur l'extérieur et non plus en structure avec son médecin traitant, quoi, par exemple. C'est souvent quand même plus compliqué que ça et les reprises de produits qui ne sont pas forcément des rechutes, hein, pour nous, ça fait partie quand même un petit peu de l'itinéraire classique quand même d'une prise en charge. Les reconsommations, quoi, peuvent accompagner des circonstances défavorables, peuvent accompagner des difficultés qui émergent précisément, quoi, à certains moments où... sur des tours qui peuvent accompagner des difficultés en termes de personnalité qui étaient déjà apparentes avec la consommation ou pas d'ailleurs, des choses qui sont apparues par la suite. Mais c'est pas une ligne droite, quoi, hein. Arrêter un produit, voilà, c'est très chaotique, c'est plein de hauts, plein de bas, et avec d'éventuelles reprises de produits malgré les traitements, mais qui permettent de quand même beaucoup atténuer les choses, quoi, et les effets produits. L'important étant de réussir à rediscuter, à reprendre, à retravailler tous ces moments-là, quoi, avec la personne elle-même. Réussir ou essayer en tout cas de faire en sorte que la personne se réapproprie un peu ces moments-là pour en faire pour dépasser, quoi, ces difficultés, quoi, mais ça n'empêche pas une évolution globale positive.
Est-ce que vous faites par exemple un soutien même au niveau et un accompagnement au niveau de la famille?
Nous, on s'est toujours attaché ici, oui, à préserver ou à maintenir ou à restaurer les liens avec les familles. Ici, donc, on travaille maintenant sur un mode ambulatoire, donc consultation, on est ouvert à la journée. Donc, on s'efforce de répondre aux familles avec l'assentiment de la personne prise en charge. Au centre, quand même, de la prise en charge, c'est la personne concernée. Mais après, il y a fréquemment des choses de cassées, des liens qui sont mis à mal ou des dynamiques familiales, quoi, qui sont compliquées, quoi. S'il y a le souhait d'évoquer, si ça peut être fait, travailler, on reste très ouvert, quoi, genre de possibilité, quoi, de travailler avec le milieu, quoi, avec la famille.
Est-ce que la compulsion du toxicomane est comme irrésistible, justement? Est-ce que quelqu'un qui touche à la drogue va devenir automatiquement toxicomane?
Non, il y a beaucoup d'expérimentations qui ne donnent pas suite à des toxicomanies, à des addictions importantes. Il y a beaucoup de gens, même avec les opiacés, qui vont essayer. En général, c'est pas très bon d'ailleurs, les premières expériences. Ne laisse pas un souvenir impérissable. Ça rend plutôt malade ou malaise. Beaucoup de gens en restent là. Et c'est tant mieux, quoi. C'est quand même relativement peu de gens qui vont évoluer vers des difficultés majeures et vers des toxicomanies avérées, quoi. Même chose avec le cannabis, qui est quand même extrêmement banalisé et répandu aujourd'hui. On s'aperçoit quand même que l'expérimentation est très 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 fréquente, mais les courbes sont montantes à partir de d'expérimentation vers 14-15 ans souvent, jusqu'à 20 ans, et ensuite la consommation diminue, les gens abandonnent, quoi, ces consommations-là pour aller vers d'autres équilibres, d'autres centres d'intérêt dans la vie, quoi. Et heureusement, la plupart des gens vont évoluer très positivement dans leur vie, quoi, sans être ennuyés par les produits.
La toxicomanie, c'est pas non plus impossible d'en sortir.
On a quand même des gens qui ont des évolutions tout à fait favorables. Voilà, sachant que si les difficultés ont été importantes, il peut falloir quand même un certain temps avant d'oublier complètement, de mettre tout ça derrière soi. Et puis de toute façon, ça fait quand même partie de son histoire personnelle. C'est donc dans ce sens-là, voilà, on garde de toute façon une trace de ce qui nous arrive. C'est comme ça.
Les soins en fait qui sont apportés ici, ils sont de l'ordre au final autant social que médical
et psychologique.
Pour ce qui est du traitement de substitution, de remplacer donc une drogue par un médicament, est-ce que au final c'est bon? Enfin, je veux dire, on remplace en fait une addiction par une autre.
Ah, ça c'est une vieille question quoi, effectivement, et notamment quand ça a été mis en place quoi, des opposants quoi, c'était un des arguments quoi, oui. Ça a beaucoup d'avantages quand même quoi. On a effectivement avec les substitutions sur des produits soit opiacés purs, soit opioïdes, qui génèrent quoi une dépendance, mais qui n'a rien à voir avec celle du produit utilisé quoi, du produit problématique. Déjà on est dans la légalité, on est dans le traitement, on n'est plus dans la défense. On est dans la régularité, alors qu'avec l'utilisation des produits en général on est sur un mode de vie chaotique d'une façon générale. Sur le plan de la santé, on est sur une reprise en main un peu de soi-même quoi. Donc avec la capacité quoi, donc de se gérer sur le plan de son hygiène, de sa santé, du social, on peut retravailler, on peut retrouver des rythmes habituels, retrouver l'appétit, retrouver le sommeil, enfin voilà, des choses de base comme ça, mais qui sont un peu élémentaires, mais très 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 importantes. Ça permet le travail quoi, sur ses consommations, sur soi, travail sur soi d'une façon générale, je veux dire comme ça quoi, mais du point de vue psychologique quoi. Même si on a toujours une dépendance par rapport à un produit, on est dans quelque chose de beaucoup plus contrôlé, maîtrisé.
Donc ici, dans la toxicomanie, le traitement en fait, médicamenteux vient là pour plus contrôler. Je pense qu'il en est différent pour la pharmacodépendance.
Pour un usage de médicaments, tranquillisants par exemple, usage excessif de tranquillisants ou d'hypnotiques. À ce moment-là, on n'a pas de substitution à mettre en place. Quoi. On peut très bien accompagner la diminution quoi, des consommations, quoi, voire l'arrêt d'un traitement médicamenteux sur le plan technique. Quoi. Mais à côté, la prise en charge sera du même ordre. Hein, en termes de détaillage, quoi, de compréhension, de soutien, d'écoute, on est sur les mêmes bases. Donc là, on va offrir une possibilité psychiatre.
Est-ce que justement, il y a certaines personnes qui font un mauvais usage de ce traitement de substitution ?
Oui. Il peut être détourné, mésusé, voire pas utilisé pendant des périodes de reconsommation quoi, d'opiacés, auquel cas ben, ça peut faire des réserves. Et puis ce sont des produits qu'on peut trouver aussi au marché noir, quoi, de manière sauvage, et qui fonctionnent à ce moment-là, donc qui sont revendus, qui vont dépanner d'autres gens, qui fonctionnent en termes de ce qu'on appelle la réduction des risques. C'est-à-dire que, en tout cas, certaines personnes auront comme ça, mais d'une manière sauvage, quoi. Accès à des produits qui vont quand même apaiser ce besoin quoi, de reconsommer, de l'opiacer. Sur le plan de la délinquance, par exemple, ça peut fonctionner. On n'est pas dans le côté, dans le besoin impérieux quoi, d'aller tout de suite chercher de l'héro. Si on peut trouver, même d'une manière sauvage, quoi, une substitution, ça permet d'apaiser les choses, de différer. C'est déjà ça. Mais ensuite, donc, alors ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et puis après, le mésusage, oui. C'est-à-dire, ça dépend, il y a plusieurs formes hein, quand même. Mais un produit comprimé, par exemple, peut très bien être écrasé et utilisé en sniff, comme on l'a dit déjà avant. Quoi. Mais auquel cas, on revient sur un usage des fonds, on n'est plus dans une utilisation traitement. Quoi.
Est-ce que vous recevez justement ici des personnes qui sont pharmacodépendantes ou est-ce que ça... Enfin, est-ce que ça va avec le packaging, entre guillemets ? Est-ce qu'à partir du moment où on est toxicomane, on n'est pas un petit peu aussi pharmacodépendant ?
Alors très souvent, c'est vrai qu'on a des polyconsommations, comme on dit. Hein. Quelqu'un peut très bien prendre de l'héro et puis prendre de la coke aussi, s'il y a l'occasion. Avoir aussi des consommations de cachetons et d'alcool. Donc on peut associer. Alors tout ça... Soit en cocktail, soit les uns après les autres. Enfin, c'est variable, mais ouais, c'est quelque chose de fréquent.
Eh bien voilà, un jeu de santé, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura donné un peu voilà, des points clés afin de connaître un peu mieux les problèmes donc, d'une personne qui peut être addict aux drogues et que vous pourrez, si vous avez vous aussi des problèmes, peut-être vous diriger vers l'envol afin de bénéficier donc d'une prise en charge médico-sociale gratuite et anonyme, je le répète, hein, c'est très important. D'ailleurs, pour information, donc c'est 4 boulevards de Strasbourg si vous voulez y aller. N'hésitez pas.